Nous allons avoir le plaisir d'entendre Jean-Pierre Bourguignon. Jean-Pierre Bourguignon est mathématicien en géométrie différentielle, équations aux dérivées partielles, EDP, en lien avec la physique, la relativité générale, etc. Il a eu une longue carrière aussi de s'occuper de la recherche à travers la direction de la Société mathématique de France, de l'IHES. Et il est maintenant directeur du Conseil européen, du Conseil européen de la recherche, du fameux ERC, qui donne des bourses de chercheurs très sélectives, très sérieusement examinées. Et ce sont des choses qui changent la vie d'un chercheur et de ses collaborateurs. La France se comportant d'ailleurs très bien vis-à-vis de ça. À l'époque, il faut le rappeler, d'une période de vache maigre pour la recherche, on peut le dire haut et fort. Merci pour ce travail fondamental, Jean-Pierre. C'est des choses qui font beaucoup de bien à la recherche. Et donc, voilà, donc son exposé a un titre assez simple, mais qui est un peu mystérieux, c'est « Donner le même nom à des choses différentes ». Ce n'est pas la chose qui est mystérieuse, c'est ce qu'on va entendre, pour moi.
Bonjour, merci en tout cas aux organisateurs de me donner l'occasion de parler devant vous dans ce colloque assez extraordinaire. Donc moi, mon sujet, c'est effectivement celui qui est là, qui est en fait une citation d'Henri Poincaré. Voilà. Donc effectivement, il s'agit de cette citation de Henri Poincaré dans « Science et méthode » qui dit que « je ne sais si je n'ai pas déjà dit quelque part », donc ça veut dire que c'est une chose qu'il avait en tête depuis longtemps, « que la mathématique est l'art de donner le même nom » à des choses différentes. Il convient que ces choses, différentes par la matière, soient semblables par la forme et qu'elles puissent, pour ainsi dire, se couler dans le même moule. Donc voilà. En fait, il continue dans ce texte, donc dans « Science et méthode », qui peut toujours être lu avec tout à fait intérêt. Vous savez, il y a eu cette trilogie qui était une trilogie de textes à la fois scientifiques, mais aussi philosophiques, destiné à un grand public qui s'appelle « Science et hypothèses »,« Science et méthodes, la valeur de la science » au début du XIXe siècle, et qui vient d'être d'ailleurs réédité par Duneau, qui est très intéressant de voir qu'un scientifique du niveau de Poincaré n'hésitait pas à passer du temps à écrire des textes de vulgarisation, de haut niveau, sans concession, mais quand même remarquablement clair. Donc il continue dans ce texte, juste après cette citation, que « quand le langage a été bien choisi », on est tout étonné de voir que toutes les démonstrations faites pour un objet connu s'appliquent immédiatement à beaucoup d'objets nouveaux. On n'a rien à changer, pas même les mots, puisque les noms sont devenus les mêmes. Voilà, donc ça c'est cette citation. En fait, il continue encore. Un mot bien choisi suffit le plus souvent pour faire disparaître les exceptions que comportaient les règles énoncées dans l'ancien langage. C'est pour cela qu'on a imaginé les quantités négatives, les quantités imaginaires, les points à l'infini, que sais-je encore. Et les exceptions, ne l'oublions pas, sont pernicieuses, parce qu'elles cachent les lois. Donc c'est une très bonne, disons, introduction à ce thème de comment le langage aide à la pensée, au développement de la science, mais aussi comment, par quels efforts, comment arrive-t-on à trouver ces identifications. Donc si vous voulez, mon propos, donc ça va être... donc de parler de ce sujet, bien entendu, puisque j'ai choisi de le mettre en titre, mais à partir d'un certain nombre de textes tout à fait significatifs dans l'histoire des mathématiques. Donc d'abord, ces textes de Poincaré, je m'en inspirerai de diverses façons. Un texte qui, pour moi, est très important et souvent mal connu, qui vient juste d'être traduit en français par M. Lobo, qui est un texte d'Hermann Weyl qui s'appelle « Philosophie des mathématiques et des sciences de la nature », dont il existe deux éditions, une première édition en allemand, puis une édition complétée dans les années 20, et ensuite une édition complétée après la guerre, en 1949, qui est cette fois traduite en anglais avec des notices historiques de Hermann Weyl, dans lesquelles souvent il fait remarquer qu'il avait quand même vu juste quelques années auparavant, ce qui est un commentaire intéressant. Et puis aussi d'autres textes très importants pour les géomètres, en tout cas pour le géomètre différentiel que je suis, de Riemann, et un texte extrêmement important et méconnu de Lagrange, dont je vais essayer de commenter. Donc voilà, et après j'arriverai à des conclusions. Voilà un peu ce que je veux faire. Et en fait, je voudrais prendre trois exemples de situations justement où les problèmes de terminologie, de concepts à identifier sont apparus, ont mis du temps, et aussi dans quel contexte ils sont vraiment apparus. Donc le premier exemple que je voudrais prendre a trait au nombre et à la géométrie. Donc la notion de nombre est une notion qui évidemment existe dans énormément de civilisations. D'abord la notion de nombre entier, il s'agit de compter. Déjà un peu plus sophistiquée, la notion de fraction, donc le nombre rationnel, diviser un nombre entier par un autre, condition qu'il ne soit pas nul. Voilà. Et alors, comme vous savez, pour les Grecs, c'est une chose qui a déjà été évoquée hier, une des choses qui est apparue comme problématique et qui du coup a amené un peu un schisme dans les mathématiques, c'est que pour les pythagoriciens, les seuls nombres acceptables étaient les nombres rationnels. Or, dès que vous faites de la géométrie, que vous connaissez le théorème de Pythagore et que vous regardez la longueur de la diagonale du carré, vous tombez sur le nombre racine de 2, et c'était connu des Grecs, et ce n'est pas très difficile, c'est un exercice intéressant, même pour un élève du collège, de démontrer que racine de 2 ne peut pas être un nombre rationnel. Donc du coup, apparaissent dans la géométrie des scandales, des nombres qui ne peuvent pas être acceptés comme nombres, qui sont des nombres irrationnels. D'où l'idée qu'il doit y avoir deux mondes. Il y a le monde des figures, de la géométrie, et le monde des nombres, parce qu'on se limite aux nombres rationnels. Donc ça a été quand même une chose qui a pesé dans l'histoire des mathématiques pendant très très longtemps. Et donc, comme je vais y revenir dans une minute, a donc amené à ce schisme. Et alors, parmi les... Cette fois, si on se limite pour quelques minutes au nombre rationnel, d'une certaine façon, il y avait quand même le fait qu'il est apparu assez rapidement que la règle bien connue, que quand je multiplie un nombre positif par un nombre positif, je trouve un nombre positif, donc plus par plus donne plus, et que du coup, ça veut dire que quand je fais le carré d'un nombre, il n'y a pas moyen qu'il soit un nombre négatif. Mais pourtant... Il apparaissait utile, en particulier c'est Cardan qui est le premier à mis ça en évidence. Excusez-moi. Voilà, donc dans ce texte, dans lequel... alors c'est intéressant parce que Cardan n'est pas celui qui a découvert la formule explicite pour résoudre les équations du troisième degré. C'est Tartaglia avant lui et peut-être même Ferrari avant lui. Mais en tout cas, il est le premier pour écrire une solution générale des équations de troisième degré. À se rendre compte, ça serait vraiment utile si on avait des nombres dont le carré était négatif. Donc c'est le premier à avoir introduit donc, les nombres qu'on appelle imaginaires, puisque visiblement, ce n'est pas des vrais nombres, c'est autre chose. Et donc, ces nombres imaginaires sont apparus dans les mathématiques à ce moment-là, mais un peu comme une commodité d'écriture, c'est-à-dire qu'on n'était pas encore dans quelque chose qui avait vraiment, vraiment un sens. Et d'une certaine façon, pour qu'on aille au stade d'après, il était indispensable de faire une révolution encore plus grande, qui était donc de faire abolir ce schisme que j'ai évoqué, qui était donc ce schisme de... Alors, peut-être un commentaire sur les nombres imaginaires, qui est quand même intéressant. Il y a un commentaire qui est fait, très tôt, à propos des nombres imaginaires, comme quoi c'est vraiment quelque chose qui a un parfum de scandale et que du coup on n'est pas sûr qu'on a le droit de les appeler des nombres, donc c'est pour ça qu'on a mis le codicille imaginaire. En tout cas, la chose vraiment importante, c'est donc qui est l'affirmation par Descartes, comme je vais le montrer dans une minute, dans le discours de la méthode, mais plutôt dans un ajout du discours de la méthode qui s'appelle la géométrie, que justement Descartes dit « ben non, en fait, ce schisme n'a pas raison d'être et on doit accepter que toute figure géométrique peut être décrite par des nombres ». Et alors voilà comment il commence sa géométrie et dans laquelle vous voyez que c'est juste en passant, donc ce n'est même pas une affirmation philosophique, c'est que vraiment si on veut résoudre, avoir des outils de résolution et aussi enrichir la géométrie, c'est indispensable d'accepter qu'on représente tout par des nombres. Et donc, le principal enrichissement auquel il pense, c'est l'enrichissement qui consiste à regarder dans le plan des courbes bien plus compliquées que les coniques, qui évidemment avaient droit de citer depuis les Grecs de façon massive, étaient un des lieux de géométrie les plus élaborés, avec des théorèmes extrêmement profonds. Donc Descartes a dit, mais après tout, si je prends une équation algébrique et que je prends des coordonnées et que je regarde les courbes de 3e degré, 4e degré, 5e degré, voilà des objets géométriques que je peux manipuler puisque je peux calculer sur eux aussi bien qu'avec les coniques, qui sont des objets du second degré, et il n'y a pas de raison de se limiter. Donc c'est dans ce contexte un petit peu limité que Descartes affirme ça. Mais en tout cas, ça c'est une affirmation extrêmement importante, et donc tout dans le cas de Descartes. Donc c'est une chose très intéressante à ce propos, même si c'est quand vous lisez le texte, enfin ça continue, le texte continue plus loin, mais vous voyez bien que dès l'introduction, quand il parle de ça, il en parle en passant, sans en faire une prise de position philosophique. Hermann Weyl, justement dans son texte sur la philosophie des mathématiques et des sciences de la nature, dit la chose suivante: l'introduction des nombres comme coordonnées, en faisant référence au processus particulier de la division du continu à une dimension, est un acte de violence dont la seule justification est le fait qu'elle permet d'utiliser la souplesse calculatoire que ce continu offre avec ses quatre opérations. Donc vous voyez que parce qu'il s'agissait de faire cesser un schisme, ce n'est pas du tout quelque chose d'anecdotique, ça change complètement les choses. Et aujourd'hui, évidemment, alors que tout le monde, y compris les enfants, quand ils font des jeux sur leur téléphone ou sur leur tablette, utilisent des coordonnées, donc l'affirmation de ces coordonnées est devenue une banalité totale, alors qu'historiquement, elle n'était pas une banalité totale. Ça ne veut pas du tout dire que les Grecs s'interdisaient de temps en temps d'utiliser des nombres pour faire des calculs géométriques, mais en tout cas, l'affirmation qui a complète correspondance entre ces deux mondes. Donc je reviens au nombre imaginaire, parce que maintenant, vous allez voir, je vais pouvoir me servir de cette affirmation pour peut-être voir les nombres imaginaires un peu différemment. Le premier, semble-t-il, qui a entrevu, donc voilà, excusez-moi, c'était la citation d'Hermann Weyl que je viens de faire, donc c'est le premier qui a entrevu l'idée de peut-être relier les nombres imaginaires à des constructions géométriques dans le plan, en fait, c'est Johannes Wallis, dans De Algebra Tractatus. Mais en fait, là, c'est aussi en passant, en faisant remarquer qu'après tout, on pourrait peut-être voir les nombres imaginaires, les représenter comme des objets dans le plan, mais il n'en fait pas de théorie. Et c'est très étrange qu'il a fallu attendre très très longtemps, c'est-à-dire le début du XIXe siècle, enfin même le XIXe siècle, et Jean-Robert Argan, qui a vraiment, cette fois, parlé d'un plan complexe, c'est-à-dire de dire qu'après tout, si on rapporte les coordonnées du plan avec les nombres réels qui sont l'axe habituel des x, et si on met sur l'axe des y, donc qu'on a tendance à représenter verticalement le nombre imaginaire i, alors brusquement, tout un tas de choses qu'on fait sur les nombres imaginaires deviennent extrêmement simples, à condition qu'on fasse donc ce qu'on appelle maintenant le plan complexe, c'est-à-dire qu'on définisse dans ce plan tout ce qu'on faisait d'habitude avec les nombres, c'est-à-dire des additions, ça on sait faire, on ajoute les deux coordonnées, ça Descartes le faisait, mais aussi une multiplication. Donc c'est ça la nouveauté. Et pourquoi cette multiplication devient très naturelle et pourquoi elle représente naturellement les nombres imaginaires? Eh bien, si on pense que la multiplication par i, qui consiste de passer de 1 à i, ça consiste à faire une rotation de 90 degrés, si je fais deux fois cette opération, donc je multiplie i par lui-même, je trouve 90 degrés plus 80 degrés, 180 degrés, donc je trouve la multiplication par moins 1. Et donc, j'ai représenté la vertu fondamentale des nombres imaginaires, qui est que le carré de i, c'est moins 1. Et donc, ça, c'est évidemment, ça donne une représentation extrêmement simple, et surtout, on dispose d'un nouvel objet mathématique, qui est le corps des nombres complexes, parce qu'après ça, on peut démontrer qu'avec ce plan, avec ces nouvelles opérations, les additions, les multiplications, on peut faire comme on fait d'habitude, à part le nombre 0, tout nombre a un inverse, on sait calculer l'inverse très simplement, donc c'est un corps au sens des mathématiciens, aussi intéressant que le corps des nombres réels pour lequel on est habitué à faire des additions, des multiplications, des soustractions, des divisions, à condition de ne pas diviser par 0. Donc voilà, donc ça a été ce passage d'un objet purement algébrique à un objet qui devient géométrique, mais pour lequel l'opération algébrique devient limpide, d'une certaine façon. Ce n'est plus du tout une bizarrerie, et que du coup, on dispose à ce moment-là d'un objet extrêmement intéressant. Mais pour montrer qu'il y a quand même des choses étonnantes, après, on peut se dire, après tout, j'ai fait ça, je suis parti des nombres ordinaires que j'ai représentés sur la droite réelle, donc ce continu à une dimension. Donc on a fait cette extension à deux dimensions, mais pourquoi on ne recommencerait pas ? Et faire donc des nombres hyper complexes, c'est-à-dire faire sur les nombres complexes ce qu'on a fait sur les nombres réels, donc introduire de nouvelles coordonnées. Alors ça a été fait au milieu du 19e siècle par William Rowan Hamilton en introduisant ce qu'on appelle les quaternions. Donc qu'est-ce que c'est que les quaternions ? C'est effectivement, cette fois on va être à quatre dimensions, puisqu'on a pris des nombres complexes et on a fait un produit par les nombres complexes. Donc cette fois, on a toujours les nombres réels qui sont un axe, avec 1 comme unité, mais maintenant, on a 3 dimensions imaginaires. Le i qu'on avait d'avance, qui était dans les nombres complexes, et puis un j et un k, c'est les notations qu'on prend d'habitude, pour la partie complexe de cette extension. Et alors, évidemment, on demande que j au carré soit moins 1, comme i au carré c'était moins 1, on demande que k au carré ça soit moins 1, et c'est un tout petit calcul élémentaire, je ne vais pas le faire, mais je l'ai sur mon écran là, qui consiste à dire que si vous faites ça, le fait que vous imposiez que i, le produit de i par j soit k, automatiquement entraîne que la partie imaginaire de ces nombres ne sont plus commutatifs. Vous savez, quand on multiplie deux nombres, faire x, y et y, x pour les nombres ordinaires, c'est la même chose. Autrement dit, on peut échanger l'ordre. Eh bien là, dans les quaternions, le fait d'avoir fait cette extension, passant au nombre hyper complexe, on perd la commutativité. Et donc ça, c'est intéressant. Et du coup, ça m'amène à un commentaire pour dire que la création mathématique de ces objets, donc la création par Hamilton des quaternions, on se dit, mais après tout, on n'a qu'à continuer. Et puisqu'on a fait les quaternions, on va faire des octaves. C'est Kelley qui a fait ça. Donc on est passé cette fois à 8 dimensions. Et là, le prix qu'on paye, il est assez élevé, parce qu'en fait, on perd bien plus. Ce n'est pas seulement que ça ne va pas être commutatif, mais en fait, on perd même ce qu'on appelle l'associativité, c'est-à-dire le fait que le produit d'un nombre par la somme de deux nombres, on peut distribuer les choses, et malheureusement, ça, on ne peut plus le faire. Et donc, il y a vraiment des... Algébriquement, il y a des choses qui font ça. Donc, on est passé des nombres réels aux nombres complexes, puis aux nombres hyper complexes avec les quaternions. On peut aller jusqu'aux octaves de Kelley, et peut-être vous ne savez pas, mais un des experts des octaves de Kelley dans le monde, c'est Jacques Titz, qui était professeur dans cette maison. Et la chose extraordinaire qui montre que les mathématiques peuvent dire des choses profondes sur des objets qu'on a l'impression de construire facilement de façon algébrique, c'est si vous voulez aller au-delà des octaves de Kelley, donc passer à la dimension 16, vous ne pouvez plus, à cause de la structure topologique de la sphère dans l'espace à 16 dimensions, donc une sphère à 15 dimensions, qui vous empêche de construire un objet algébrique qui serait aussi intéressant que les octaves de Kelley. Donc ça veut dire qu'avec cette construction qui semblait algébriquement toute simple, on est passé de 1 à 2, puis de 2 à 4, puis de 4 à 8, etc. En fait, la nature des objets que vous regardez est suffisamment cachée et complexe pour que ce que vous voudriez faire par, spontanéité algébrique vous est interdit par une topologie beaucoup plus profonde. C'était un commentaire en passant, mais pour montrer que, là encore, au niveau du langage, ce qu'on peut croire comme des opérations banales, en fait, sous-jacent, il y a une réalité d'une subtilité beaucoup plus grande et pour lesquelles les outils mathématiques à mobiliser sont complètement d'un autre ordre. C'est en fait de la topologie algébrique inventée par Henri Poincaré. Voilà, donc ça, c'était mon premier sujet qui était de parler du passage, de l'introduction des nombres imaginaires, mais aussi de la nécessité d'accepter les systèmes de coordonnées, donc de repérer les objets, de faire une synthèse entre la géométrie et l'arithmétique, mais en fait l'utilisation des nombres, et de montrer comment ces choses-là amènent à des objets mathématiques extrêmement intéressants, extrêmement profonds. La deuxième notion que je voudrais discuter, qui est en fait... pour les géomètres, évidemment, fondamentale, qui est la notion d'espace. Donc, pour tout le monde, quand on parle de l'espace, ben, c'est l'espace qui nous entoure. C'est un espace à 3 dimensions, dont on a l'impression qu'on a le contrôle sensible. Et historiquement, c'est une chose qui a... Évidemment, les travaux d'Euclide ont été fondamentaux. On peut mesurer des distances dans l'espace ordinaire. Et c'est ça qui fait sa valeur, qui fait sa richesse, qui fait sa solidité. Et pendant longtemps, beaucoup de gens ont considéré que l'espace, l'espace euclidien, et même l'espace euclidien à trois dimensions, était en fait le seul espace concevable. C'est intéressant de lire dans Emmanuel Kant, donc la critique de la raison pure, qu'un des impératifs absolus, c'est justement l'espace euclidien. Alors en fait, si vous lisez un peu plus Emmanuel Kant, un peu avant la critique de la raison pure, il discute à un moment, après tout, pourquoi l'espace à trois dimensions et pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas en avoir plus ? Mais finalement, quand il vient à la critique de la raison pure, qui veut définir les impératifs absolus, la seule chose qui compte, c'est l'espace euclidien à trois dimensions. Donc déjà, l'idée de concevoir un espace à plus de trois dimensions était problématique, mais surtout un espace qui soit structuré par la notion de longueur telle qu'on la connaît chez Euclide, avec tous les théorèmes qu'on connaît. Donc d'une certaine façon, quand on a commencé à... Alors, une des choses qui était un ver dans le fruit pour les mathématiciens, c'était le fameux postulat des parallèles. Ce postulat des parallèles, qui arrive dans la description d'Euclide à un certain niveau, en général on le présente comme le cinquième postulat, en fait c'est un peu plus compliqué quand on compte parce qu'il y a des postulats qui ont des codiciles, en tout cas appelons-le le cinquième postulat, qui est un postulat extrêmement simple et naturel, qui consiste à dire que si je prends une droite dans un plan, si je prends un point extérieur à la droite, alors il existe une et une seule droite passant par ce point parallèle à cette droite. Si vous regardez vraiment la façon dont Euclide l'a énoncé, il ne l'a pas énoncé comme je viens de l'énoncer. Il l'a énoncé en disant que si je prolonge, il existe une droite qui, si je la prolonge indéfiniment, ne rencontrera pas l'autre droite. Donc vous voyez que là, c'est déjà une chose un tout petit peu plus subtile, en ce sens que ça fait appel à l'infini, puisqu'il faut prolonger la droite indéfiniment. Évidemment, ce que vous ne pouvez pas faire matériellement. Donc c'est déjà forcément une abstraction. En tout cas, ce postulat était problématique. Pourquoi ? Il était présenté comme postulat chez Euclide, mais la question se posait, est-ce qu'il n'y a pas moyen de déduire ce postulat comme un théorème déduit des postulats précédents ? Et il y a eu énormément de tentatives pour faire ça, toutes fausses. Toutes les fois, il y avait une erreur dans la démonstration. Et du coup, un ensemble de gens se sont mis vraiment à discuter ce postulat très sérieusement. Et vers la fin du XVIIIe siècle, il a commencé à y avoir, avec Legendre et quelques autres, des tentatives qui commençaient à être vraiment intéressantes sur ce postulat. En fait, le premier qui probablement a compris qu'on pouvait construire des géométries sans ce postulat, c'est en fait Gauss. Mais vous savez, la devise de Gauss, c'était « pauca sed matura », peu de choses, mais des choses mûres. Donc, il n'a pas publié à ce propos. Mais finalement, le scandale de l'existence de géométrie non euclidienne est arrivé avec Nicolas Lobachevsky, qui était à ce moment-là recteur de l'université de Kazan. Et c'est très intéressant parce que pour Lobachevsky, quand il a parlé de publier son article sur les géométries non euclidiennes, qu'est-ce qu'il a pris comme mot ? Géométrie imaginaire. C'est tout à fait intéressant. Après, il a un autre article qui s'appelle « La théorie des parallèles », c'est même un livre, justement, où il développe qu'on peut faire une géométrie non euclidienne. Évidemment, il prend le soin, en discutant dans cet article, que, évidemment, quand on fait des mesures dans l'espace qui nous entoure, on a l'impression qu'on est quand même bien dans un espace euclidien, que ça, c'est une sorte de création un peu abstraite. Et ça, ça a été vu quand même pendant longtemps, comme un scandale. Et il y a même eu encore, sans vouloir insulter mes ancêtres mathématiciens français, jusque vers 1870, parce que la théorie de la géométrie non euclidienne s'est beaucoup développée en Allemagne, aussi en Italie, et il y a quand même eu une note au compte-rendu par un mathématicien français, professeur à l'école polytechnique, disant que tout ça, c'était de l'intoxication par de la mathématique allemande. Donc... Vous voyez que le nationalisme peut se nicher dans des choses assez dramatiques. Donc, en tout cas, il n'y a pas de doute qu'on peut construire des géométries non euclidiennes. Donc déjà, la notion d'espace euclidien comme seule géométrie pensable était battue en brèche. Donc voilà, donc ces géométries... Alors, la chose extraordinaire, c'est qu'en fait, beaucoup de gens manipulaient des géométries non euclidiennes depuis très longtemps, en particulier les astronomes. Quand les astronomes regardaient la voûte céleste, ils ont développé même une trigonométrie pour la voûte céleste, pour calculer les positions des étoiles. En fait, ils développaient une géométrie qui est la géométrie sur la sphère. Si sur la sphère, on appelle droite les grands cercles, en fait, on a une géométrie parfaitement conforme à la géométrie d'Euclide, sauf le postulat des parallèles, puisque, évidemment, sur la sphère, je ne peux jamais tracer le parallèle par un point, puisque tous les grands cercles se coupent. Donc voilà, le postulat des parallèles est violé, mais tous les autres postulats sont corrects, donc la géométrie non euclidienne, sphérique, Et alors, l'invention de Lobachevsky, c'est une géométrie hyperbolique, comme on l'appelle, qui, au contraire, est, dans le, du point de vue du postulat des parallèles, exactement le contraire. C'est que par un point extérieur à une droite, à ce moment-là, une des représentations possibles, c'est de représenter l'espace comme l'intérieur d'un disque, et à ce moment-là, de prendre comme cercle, comme droite, pardon, les cercles qui sont orthogonaux au bord du disque. Et évidemment, si vous prenez un point extérieur à un cercle, vous vous rendez compte qu'il y a une infinité de parallèles qui passent par ce point. Donc évidemment, vous violez le postulat, le cinquième postulat d'Euclide. Donc ça, c'est aussi une géométrie non euclidienne, extrêmement intéressante, particulièrement pertinente pour les informaticiens, puisque du point de vue des réseaux, c'est plutôt ce type de géométrie qui est pertinente. Ce que je voudrais dire, c'est qu'un pas très important dans la généralisation de la notion d'espace est venu chez Riemann. En plus, dans un moment tout à fait particulier, puisque c'était en fait sa soutenance de thèse, et vous connaissez le système allemand qui a existé jusqu'à très peu de temps, qui était qu'évidemment le candidat présentait ses résultats, mais il devait aussi présenter une leçon sur un des trois sujets proposés par la faculté. Dans le jury de Riemann, il y avait Gauss, qui a proposé un sujet sur, justement, les hypothèses sur lesquelles la géométrie est fondée. Et dans ce texte, donc, conçu en très peu de temps, Riemann, à ce moment-là, réfléchissait beaucoup à la théorie de l'éther de la physique, c'est-à-dire le substrat sur lequel toute la physique devait être fondée. Donc il réfléchissait aussi à quelle géométrie est la géométrie de l'éther. En fait, introduit une géométrie beaucoup plus générale et qui pousse l'idée de Descartes beaucoup plus loin, en disant, mais en fait, on peut définir des géométries à partir du moment où on se donne des coordonnées et on donne une façon de mesurer les longueurs à chaque point, mais qui varie en fonction du point. Et ce qui caractérise la géométrie euclidienne, c'est tout simplement que je peux trouver un système de coordonnées dans lesquels je peux rendre ces coefficients de cette façon de mesurer les longueurs, de cette métrique, constants. Et une façon de le mesurer, c'est par un invariant introduit par Riemann qui s'appelle la courbure. Et donc, un espace qui n'a pas de courbure est un espace euclidien et tous les autres espaces sont de la courbure. Et les espaces non euclidiens, la sphère ou l'espace hyperbolique, sont très simples de Riemann puisque c'est les espaces dont la courbure est constante. Après ça, il y a plein d'autres objets bien plus compliqués avec des bosses, etc. Et donc, ça, c'est une génération considérable de la notion d'espace. Et c'est très intéressant parce que dans le texte que Riemann, dans ce texte-là, dont vous voyez l'introduction, donc qui a été publié après sa mort, donc ça c'est donc tout à fait significatif. Riemann a eu une vie très courte, il a en plus souffert dans la dernière partie de sa vie d'une tuberculose très marquée qui faisait qu'il était extrêmement affaibli, mais sa production était extraordinaire. Et donc je cite ce passage de Riemann, enfin la traduction en français de ce passage de Riemann. Entre parenthèses, si quelqu'un, peut-être c'est une chose qu'il faut que je fasse dans ma retraite, la traduction existante en français du texte de Riemann est particulièrement faible. C'est-à-dire, elle contient y compris des contresens, ce qui est quand même gênant. Elle remonte au début du XXe siècle. En tout cas, voilà une traduction dont je pense qu'elle ne contient pas de contresens, en tout cas j'espère. Au contraire, les occasions qui peuvent faire naître les concepts dont les modes de détermination forment une variété continue, donc c'est l'idée de ces espaces paramétrés par des nombres, sont si rares dans la vie ordinaire que les positions des objets concrets et les couleurs sont à peu près les seuls concepts simples dont les modes de détermination forment une variété à plusieurs dimensions. Donc variété à plusieurs dimensions, ça veut dire simplement peuvent être repérés par des collections de nombres. Alors pourquoi est-ce qu'il fait référence aux positions des objets concrets? Tout simplement, quand on remonte à Euler, une chose dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle les angles d'Euler, qui permettent de repérer la position d'un solide par rapport à un solide de référence, très important, donc ça veut dire qu'on peut repérer la position d'un solide par rapport à un autre par des nombres, donc ça rentre dans la catégorie de Riemann, et évidemment c'est tout à fait important. Et chose très intéressante, c'est que Riemann parle de l'espace des couleurs. Et effectivement, on savait déjà à ce moment-là que du point de vue de la physiologique, la perception de la couleur était faite avec trois détections. Donc il y avait trois couleurs fondamentales qui permettaient de reconstruire, en tout cas pour l'œil, les couleurs. Alors faire attention parce que c'est effectivement trois quantités, mais ces quantités sont en fait des quantités qui sont plutôt des coordonnées dans un espace projectif. Je sais que Karine Chembla va parler de l'espace projectif cet après-midi. Donc ça veut dire que ce sont déterminées à un coefficient près. Donc en fait, le vrai espace des couleurs, la chromaticité, c'est vraiment à deux dimensions, même si on utilise souvent trois paramètres pour les repérer. Et après ça, comme vous savez, aujourd'hui, manipuler des couleurs est un objet fondamental du point de vue industriel, à cause des écrans, à cause de l'impression, etc. Donc c'est devenu un sujet extrêmement intéressant. Mais c'est quand même intéressant de voir que dans son texte, aussi fondamental que ça, Riemann parle de l'espace des couleurs. Alors c'est intéressant aussi de voir qu'Hermann Weyl fait la même chose. Il discute dans son livre sur la philosophie des mathématiques l'espace des couleurs avec une certaine intensité. Alors moi, ce dont je voudrais vous parler, c'est de dire que, en fait, Riemann a raté quand même quelque chose, qui est qu'il y a vraiment quelqu'un qui a créé un espace vraiment nouveau, vraiment abstrait, qui est en fait Joseph-Louis de Lagrange. Donc ce texte, qui remonte à 1808, est un texte extrêmement intéressant parce que, à ma connaissance, c'est la première fois qu'un espace abstrait a été utilisé en mathématiques. Alors que faisait Lagrange ? Ça, c'est une remarque que je voudrais faire, parce que je vous ai dit déjà pour Cardan, quand il a introduit les imaginaires, c'était vraiment parce qu'il était embêté, il avait quelque chose à écrire, et il n'avait pas les outils, donc il a introduit les nombres imaginaires. Et vous voyez que pour, en fait, Joseph-Louis de Lagrange, même s'il a vraiment compris quelque chose de très profond à propos de ce qu'il faisait, il le fait d'une certaine façon en passant, c'est-à-dire il a un problème en tête très précis, qui est le problème de la variation des éléments des planètes, c'est-à-dire on s'intéresse au mouvement des planètes autour du Soleil et on essaye de le prévoir de la façon aussi précise qu'on peut. Alors on sait qu'il y a un mouvement très très simple. S'il y avait une seule planète autour du Soleil, alors Kepler, Newton nous ont donné tous les outils pour trouver le mouvement des planètes. Le problème, c'est qu'il n'y a pas qu'une planète, il y en a plusieurs. Donc les autres planètes viennent perturber le mouvement des planètes. Et donc cette perturbation, évidemment, rend les calculs beaucoup plus compliqués. Donc il y a eu toute une théorie des perturbations qui a été développée, qui fait des choses remarquables. Mais malgré tout, par exemple, une des choses qu'on n'arrive pas à prévoir, est-ce qu'on peut anticiper qu'une planète va être éjectée du système solaire ou pas ? Donc ça, c'était un des sujets qui intéressait Lagrange. Et donc là, il développe une technique radicalement nouvelle pour le faire. Et donc tout de suite, dans son texte, il fait remarquer... Voilà, on entend en astronomie par éléments un certain nombre de choses qui permettent de repérer les planètes. Et simplement, il dit que ces cinq quantités jointes à l'époque, donc l'époque, c'est la position d'une planète sur son orbite, donc c'est le moment de l'année, si vous voulez, étant connues pour une planète, on peut trouver en tout temps son lieu dans le ciel par le moyen de ces deux lois découvertes par Kepler, que les aires décrites. Alors après, il dit justement qu'après, il y a les perturbations qui viennent changer les choses. Et alors, il dit, mais oui, en fait, utiliser ces coordonnées dans cet espace, ce n'est pas ça qui va vous permettre de résoudre le problème. Et donc, dans ce mémoire, il développe ce qu'il appelle, enfin, ce qu'il n'appelle pas, mais qui, en tout cas, ce qu'on peut appeler l'espace des mouvements elliptiques. Et la chose extraordinaire, c'est qu'il se rend compte, et en tout cas, il l'introduit de façon très explicite, que cet espace des mouvements elliptiques, qui est un espace à six dimensions, qui n'est pas, qui ne sont pas seulement des objets, disons, concrets, c'est aussi des objets abstraits, en fait, il montre que pour étudier le mouvement de cet espace à six dimensions, c'est infiniment plus facile que dans l'espace concret auquel on pense. Et pourquoi ? Parce que cet espace à six dimensions a de façon naturelle une géométrie radicalement nouvelle, qu'on appelle aujourd'hui une géométrie symplectique, qu'il décrit de façon remarquable dans son texte, et pour lesquelles on peut écrire des équations d'une simplicité extraordinaire qui permettent de traiter avec une seule fonction, qui est la fonction de perturbation, tout le mouvement de tout le système. Et donc ça veut dire qu'on transpose le mouvement habituel, qui est le mouvement avec trois positions dans l'espace, plus les trois vitesses, qui sont les six paramètres qui sont là, dans un autre espace à six dimensions, qui est l'espace des mouvements elliptiques, dans lesquels la traduction des équations du mouvement devient extrêmement simple, à condition qu'on ait compris qu'il y a sous-jacent, pas une notion de distance, mais une notion qu'on appelle aujourd'hui de forme symplectique, qui est un objet antisymétrique, alors que les objets de distance sont des objets symétriques. Et ce texte, de façon extraordinaire, est resté quand même largement incompris, inconnu pendant longtemps. Les gens utilisaient les résultats, mais ils n'avaient pas compris qu'il y avait là un acte fondateur d'un nouveau secteur de la géométrie. C'est intéressant dans des échanges de lettres entre Lagrange et Laplace, que Laplace ne comprend absolument pas ce que fait Lagrange, avec tout le respect que j'ai pour Laplace, bien entendu, qui a fait des choses extraordinaires. Et donc, il y a une espèce de dialogue de sourds. Lagrange avait absolument compris ce qu'il faisait. Il fait remarquer, d'ailleurs, que même si l'attraction de la gravitation, qui est la cause du mouvement, n'était pas donnée par les lois de Kepler, en fait, on a quand même un espace des mouvements. Alors, plus elliptique, évidemment, puisque elliptique, c'était parce que... Alors, pourquoi cet espace est abstrait? Tout simplement, c'est la chose suivante. C'est que s'il n'y avait qu'une planète et le Soleil, ce serait vraiment un mouvement elliptique. Mais il y a les perturbations des autres. Donc, l'idée, c'est de se dire... Je vais tracer une trajectoire dans l'espace des mouvements elliptiques en me disant qu'à chaque moment, la trajectoire réelle, elle est en fait, elle a un contact maximum avec le fait de. Donc, on s'intéresse à la façon dont l'ellipse, qui devrait être le mouvement pur, est perturbée par la présence des autres planètes. Donc c'est ça, cette idée superbe qui, en fait, a donné lieu à une nouvelle géométrie qui, aujourd'hui, est spectaculaire. Donc je vais terminer sur ce chapitre et j'arrive au dernier chapitre qui va me permettre de conclure, qui était de donner un exemple explicite d'un isomorphisme, puisque c'est la chose qui est fondamentale chez les mathématiciens, qui est dans un livre que vient de publier Laurent Lafort, qui est un livre de cours pour des professeurs du secondaire, peut-être un peu coriace, mais en tout cas remarquablement écrit, parfaitement pédagogique, sur justement deux mondes qui sont isomorphes au sens des mathématiciens, donc qui parlent de la même chose, qui est d'un côté l'espace des plans affines, construits sur un corps quelconque, et l'espace des corps au sens des mathématiciens, c'est-à-dire un espace... un objet algébrique dans lequel on a une addition, une multiplication et toutes les opérations habituelles qu'on connaît avec les propriétés qu'on connaît. Et en particulier, comment ces notions se relient, se correspondent l'une avec l'autre. Et donc, la correspondance que je voulais vous faire voir, c'est donc ça, c'est la propriété de Desargues, qui est une propriété fondamentale de la géométrie élémentaire. Donc, qu'est-ce que vous donnez? Donc, oubliez peut-être la situation du bas, qui est la situation... Je prends deux droites... Peut-être on prend la situation du bas, elle est plus simple. Deux droites qui se coupent en un point P. Maintenant, je prends deux couples de parallèles, donc les parallèles delta 3, delta prime 3, et puis delta 1, delta prime 1. Eh bien, le théorème de Desargues dit que les points d'intersection de ces parallèles avec les droites D1, D2, D3 me permettent de créer, justement, en pointillé, deux droites. Et la propriété de Desargues, c'est que ces droites sont parallèles. Voilà. Donc ça, c'est à la base de la théorie des espaces affines. Donc ça, c'est la première propriété. Et la deuxième propriété, qui est la propriété de Pappus, si je fais une construction qui est un petit peu analogue, mais pas tout à fait la même, je prends toujours mes deux droites de base D et D' qui se coupent en un point P. Je prends maintenant deux droites parallèles delta 1, delta 2, une autre droite, deux droites parallèles delta prime 1, delta prime 2. Eh bien, vous voyez que je peux trouver de nouveau des droites en pointillé qui sont liées au point d'intersection de ces familles de droites. Eh bien, la propriété de Pappus, c'est d'affirmer que ces droites sont parallèles. Eh bien, la chose extraordinaire, c'est que si je me donne un espace affine, c'est-à-dire un plan affine à deux dimensions, qui vérifie la propriété de Desargues, alors si je m'intéresse dedans à toutes les transformations qui préservent les propriétés affines, je fabrique quelque chose qui est un corps, et que le fait que ce corps soit commutatif, c'est-à-dire que les produits de deux éléments commutent, est directement lié à la propriété de Pappus. Donc le dictionnaire complet, c'est qu'étant donné un plan affine, je peux construire un corps. Connaissant un corps, je peux construire un plan affine tout simplement en prenant les paires de nombres pris dans le corps, et automatiquement ça vérifiera la propriété de Desargues. Et si le corps est commutatif, ça vérifiera la propriété de Pappus. Donc, voilà un exemple de deux mondes, a priori différents, un totalement algébrique, qui est la théorie des corps, et un autre complètement géométrique, qui est la théorie des plans affines, pour lesquels il y a un dictionnaire complet. Et donc, ma conclusion, c'est donc de dire à quel point cette notion d'isomorphisme, là, je suis en train de citer Hermann Weyl, est d'une importance capitale pour la théorie de la connaissance. On peut dire des domaines isomorphes qui possèdent la même structure. Et en fait, les mathématiques, c'est la science des structures. Pour toute proposition pertinente vraie au sujet du premier modèle, il y a une proposition correspondante et formulée de façon identique au sujet du second. C'est ainsi, par exemple, l'espace est appliqué de manière isomorphe par l'utilisation des coordonnées Descartes sur le domaine opératoire de l'algèbre linéaire, et puis l'exemple que je viens de donner pour la théorie des corps. Et donc la chose, après, pour la théorie de la connaissance, qui est donc tout à fait importante à citer, donc je cite de nouveau Hermann Weyl, cette fois dans un ajout de la version 1949, « Une science ne peut établir son domaine de recherche que jusqu'à une application isomorphe. Elle reste totalement indifférente à l'essence de ces objets. L'idée d'isomorphisme marque à l'évidence la limite insurpassable du savoir. » Merci.